sur Canal Sud 92.2 jusqu'à 14h environ, et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant dans le studio un nouvel invité, Saïd Benjelloun. Bonjour Saïd.
Bonjour.
Donc enseignant d'arabe à l'université Jean Jaurès, anciennement, je vais y arriver, université du Mirail, calligraphe qu'on retrouve souvent sur les événements liés aux langues sur les places toulousaines, et on en reparlera d'ailleurs d'un événement qui aura lieu le 29 septembre place des Tiercerettes. Mais si je l'ai invité aujourd'hui, c'est surtout pour nous parler d'un livre auquel il a contribué et qui est en lien aussi avec une conversation socratique qui aura lieu donc dimanche 29 septembre. Donc Saïd, est-ce que tu peux nous présenter peut-être en quelques phrases ce livre et peut-être pourquoi, comment tu y as contribué? Donc ce livre, La démocratie peut-elle se passer des langues cultures?
Oui, bonjour. Effectivement, donc, j'ai participé à cet ouvrage collectif donc, qui s'intitule Les langues cultures, moteurs de démocratie et de développement. Mmh. Coordonnée par Martine Boudet. Donc il s'agit de contributions de 18 universitaires, donc soit des linguistes, spécialistes de langue ou spécialistes de culture, des anthropologues. Mm-hmm. Mais il y a aussi des chercheurs d'autres nationalités, donc d'origine ou de nationalité différente. Il y a aussi la participation de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Mmh. Et enfin, la participation de Claude Sicre pour le Forum des langues du monde. Alors, donc, ce livre sera présenté, donc, comme tu l'as dit, dimanche 29 septembre, donc à 18h. Alors ça se fera dans le cadre de la journée européenne des langues, donc, mm-hmm. Qui commence à 15h à la place des Tiercerettes à Arnaud Bernard, donc à Toulouse. Et à 15h il y aura un café des langues, donc avec l'association Bilingue 31, donc des échanges entre locuteurs. Mm-hmm. Et à 18h donc il y aura donc la conversation socratique. Donc c'est un programme qui a commencé au début septembre et qui a abordé un certain nombre de questions de poésie, de peinture, les peintres de la retirada, de cloches, ce que oui. disent les cloches. Et donc qui se termine donc le 29 par cette conversation qui a effectivement pour titre « La démocratie peut-elle se passer des langues cultures ?» Mm-hmm. Alors donc là, il y aurait donc la coordinatrice Martine Boudet, il y aurait les participants, donc quelques participants, Joël Cordès, Saïd, moi-même et Claude Sicre du Carrefour culturel Arnaud Bernard. Voilà.
D'accord. Et les quatre invités ont contribué au livre, donc oui. qui s'appelle un peu différemment.
Comme oui, voilà.
J'avais fait une erreur. Le livre s'intitule Les langues cultures, moteurs de démocratie et de développement.
Voilà, paru aux éditions du Croquant, donc en juin 2019.
Important voilà. toujours de citer
oui,
les
voilà.
éditions, c'est
Tout
vrai.
Tout à fait. Voilà. Alors, disons que le point central, donc, c'est la question de la culture. Mm-hmm. Donc, le concept de langue-culture. Donc, c'est un concept qui est promu notamment par la didactique du français langue étrangère. Mm-hmm. Voilà. Mais qui date déjà, donc, puisqu'il a été élaboré. Il est élaboré à partir de l'identification de toute langue avec une nation. Donc, et c'est une association qui a été opérée par le philosophe Wilhelm von Humboldt début 19e siècle. Alors, plus exactement, on peut le trouver donc sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage paru au Seuil point, en 2000.
D'accord, donc ça voilà. c'est l'origine de
voilà,
ce concept.
Voilà, c'est l'origine
de
ce contexte, c'est de ce contexte. Alors on peut aussi citer donc Edward Taylor, donc 1871, qui dit « La culture définie comme la totalité des connaissances, des croyances, des arts, des valeurs, lois, coutumes et toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société. » Donc c'est très très important de bien situer donc...
Qu'est-ce qu'on entend par culture ?
Par culture et donc... Enfin, si on veut vraiment pour arriver jusqu'à aujourd'hui, donc je citerai Claude Agege, Seuls les gens mal informés pensent qu'une langue sert seulement à communiquer. Une langue constitue aussi une manière de penser, une façon de voir le monde, une culture. Donc voilà, c'est un petit peu le fil rouge, si on peut dire, entre tous ces articles donc, qui abordent plusieurs questions. Et donc, pour ma part, j'ai participé une contribution sur l'enseignement de la langue arabe en France, donc en revenant au passé, tout ce qui est structurel, et puis l'évolution de cet enseignement, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou de l'université. Voilà, c'est un petit peu en finissant évidemment par un certain nombre de recommandations, dans la mesure où ce livre ne fait pas canaliser, mais qu'il essaye de proposer, à partir des recherches des contributeurs.
D'accord. Est-ce que ça serait possible, dans le temps relatif qui nous est imparti, d'approfondir un peu ce thème sans trop dévoiler ce qui se dira dimanche ou ce qui est dans le livre par rapport à l'enseignement de l'arabe? Est-ce qu'il y a cette notion de langue-culture? Comment tu l'abordes dans cet article?
Alors, oui.
En quelques phrases, parce que c'est évidemment...
Alors, évidemment, l'arabe... en tant que langue, souvent on parle de langue sans territoire. En fait, c'est l'arabe comme langue de France. Elle fait partie des langues de France. Et c'est une langue qui est enseignée en France depuis très très longtemps. Alors l'intérêt à l'arabe a commencé... dès la création en 1530 par François Ier du collège des trois langues, turc, persan et arabe. Donc voilà, on peut dire le point de départ. Après, ce fut la fondation en 1795 de l'école spéciale des langues orientales. C'est actuellement l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. Voilà. Et évidemment... dans le présent, dans les années 70, d'autres perspectives apparaître, avec en particulier dans l'intégration des jeunes maghrébins dans la République française, puisqu'avant l'immigration était régie par l'idée ou le projet de retour dans les pays d'origine. Mmh. Et c'est ces mêmes années-là qu'il y a eu la création du CAPES d'arabe, alors que l'agrégation d'arabe existe depuis bien longtemps. Voilà. Alors, disons que l'évolution de cet enseignement, on est passé justement par ce qu'on appelait les enseignements des ELCO, langue et culture d'origine, assez récent, à un enseignement de langue. Je regarde mes notes.
Les notes, pardon.
D'accord. Et on va plutôt parler des EILE, des enseignements internationaux de langues étrangères. Donc l'arabe, il est considéré, il est enseigné comme une langue étrangère parmi les autres langues et non plus lié à cette culture d'origine. Alors évidemment, la question de la culture, là, elle s'élargit, puisque c'est dans la culture, il y a tous les aspects que j'ai cités tout à l'heure, littéraires, religieux, tous les domaines, coutumes, traditions qui sont vivantes et qui évoluent, évidemment.
Et quand on apprend une langue, on apprend aussi ces codes.
Tous ces codes-là font partie justement de cet enseignement. Et dans les perspectives, si l'on veut, c'est justement dans la mesure où encore dans ces enseignements internationaux, il y a l'intervention des pays d'origine et que le but, l'idéal serait que ce soit un enseignement entièrement pris en compte par l'école française.
D'accord. Et ça, c'est en train d'évoluer, justement.
On espère.
Parce que la situation encore actuelle dans beaucoup d'écoles, c'est que ces ELCO sont gérés par des professeurs, sont animés par des professeurs qui viennent de différents pays.
C'est au niveau de la formation des enseignants, au niveau et aussi qui dit enseignante des enseignants, dit aussi les valeurs qui sont véhiculées et que ce soit effectivement les valeurs de la République, de la laïcité, et pas du tout des valeurs
Oui, qui pourraient être liées trop à un pays particulier.
Et ça permettrait d'avoir un enseignement vraiment de langues étrangères, internationales, vu l'ampleur que prend la langue arabe dans le monde aujourd'hui.
Justement, en parlant de la langue arabe dans le monde, peut-être que tous les auditeurs, auditrices ne sont pas au courant. Où on parle l'arabe? Dans quel pays l'arabe? Alors, on la parle dans les pays d'immigration, comme la France ou d'autres pays européens, mais les pays où elle est langue officielle?
Alors, justement, c'est ce qui définit ce qu'on appelle le monde arabe ou les pays arabes. Mm-hmm. C'est vraiment la langue, donc ça me permet de parler de cette langue. Il s'agit de l'arabe. Alors, souvent, on parle d'arabe classique, ou d'arabe standard, ou d'arabe moderne. En fait, ce qui me semble, et d'après mes recherches et les travaux que j'ai faits, mes manuels essentiellement, c'est une langue écrite. Donc, c'est les pays dont la langue officielle est l'arabe. Mmh. Et c'est une langue écrite donc, qui est commune à 22 pays, donc du Maroc jusqu'aux pays au Qatar, en Arabie Saoudite, en Irak, en Syrie, etc. Donc le Moyen-Orient. Donc cette langue, cette particularité est assez unique dans la mesure où tous ces pays utilisent la même langue écrite. À côté de cette forme écrite, il y a des formes, je dis bien au pluriel, orales. C'est ce qu'on appelle les dialectes. Alors évidemment, dans ces pays, ces dialectes qui ont une culture, qui véhiculent une pensée, qui ont une littérature orale, souvent, elles sont dévalorisées parce qu'on considère que c'est des langues de parole, c'est des langues de tous les jours. Voilà. Mmh. Alors que la langue écrite, c'est la langue officielle, c'est la langue... Et surtout, alors l'élément qui complique un petit peu les choses, c'est la langue aussi du Coran. Donc c'est la langue religieuse, c'est la langue sacrée. Et ça ne manque pas de poser des problèmes au niveau de l'enseignement dans beaucoup de pays, en particulier donc le Maroc que je connais bien, entre la langue qui est d'enseignement, l'arabe, et... la langue qui est parlée à la maison, ce que en Europe on parle de home language, de langue de la maison. Hein, donc voilà, il y a une opposition qui parfois prend même une forme de guerre de langue, si l'on veut. Et alors qu'il s'agit de deux formes, hein, de deux orale et écrite d'une même langue, et que l'une. Donc le lien est important entre les deux et que l'une enrichit l'autre et que spontanément on va parler en arabe dialectal, qu'on soit en Égypte ou au Maroc ou au Qatar. Et dans les échanges écrits et surtout dans la littérature, dans la poésie, Alors la langue orale aussi, elle est très vivante aujourd'hui dans les films, dans le théâtre, dans la publicité. Donc vous voyez, tout ce qui est oral, tout ce qui a besoin d'oral et que, à mon sens, il n'y a vraiment pas lieu ni d'avoir une guerre, ni d'avoir une opposition entre les deux. Pour ma part, concrètement, donc, j'ai enseigné les deux langues à l'université et j'ai publié des manuels dans je dis bien les deux langues, les deux formes de l'arabe, l'un s'intitulant l'arabe écrit, donc lire et écrire en arabe littéral. Hein, c'est le titre exact. Et le manuel le plus récent, c'est comprendre et parler l'arabe maghrébin en prenant des textes et du vocabulaire des trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie.
D'accord. Et si on imagine une rencontre entre, peu importe où dans le monde, entre un Syrien, un Égyptien, un Marocain, si chacun parle sa langue dialectale, on va dire sa version orale de l'arabe, est-ce qu'il y a intercompréhension? Est-ce que les gens s'adaptent? Comment ça se passe généralement?
Oui, alors effectivement, parce que la langue mère est la même, donc de l'arabe, il y a une adaptation, d'autant plus que les colloques, les rencontres, donc souvent entre intellectuels qui maîtrisent donc la langue écrite, qui écrivent ou qui produisent dans cette langue et qui parlent spontanément leur dialecte. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a Chacun essaye de s'approcher de l'autre en utilisant une forme un petit peu, disons un niveau de langue qui est très très proche de l'écrit, mais oralisé. Voilà. Mmh. Donc, sauf évidemment si, avec les voyages, avec les films, avec tous les médias, par exemple, un Marocain est habitué au parler égyptien et il va parler en égyptien très très facilement. En vivant en France, par exemple, l'arabe qui est parlé, moi personnellement, je parlais l'arabe marocain et je me rends compte que cette langue orale pour moi-même, évolue, change dans la mesure où je côtoie des Algériens, des Tunisiens, des Syriens, et des fois je me retrouve à utiliser une expression algérienne ou une question sous forme plutôt tunisienne. Et du coup, voilà, ça
c'est peut-être une nouvelle variante.
Voilà,
maghrébin
ça fait un
de
melting
France.
Pot, tout à fait, et qui facilite justement la communication puisque c'est le plus important. Et alors, justement, dans l'esprit de ce livre, de mon article sur la langue arabe, c'est de la valorisation, justement, de ces langues qu'on minorise, qu'on méprise, parce que en les valorisant, on valorise toute une culture qui, parfois, risque de disparaître,
populaire, qui
a besoin de... Il y a des contes, il y a des proverbes, il y a une richesse qui traduit, justement, une pensée, et pas seulement une façon de parler quotidienne.
D'accord. Donc, justement, en parlant de diverses variantes, là, on va écouter Oum Kalsoum, donc qui est égyptienne, si je ne me trompe pas, et qui est connue dans tout le monde arabe, on peut dire.
Oui, et qui chante aussi bien en arabe littéral, arabe classique, qu'en arabe dialectal égyptien.
D'accord. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va écouter exactement, tu nous diras peut-être après.
Thank you.
Donc Oum Kalsoum, c'est vraiment une personne importante dans la culture arabe.
Oui, on l'appelle Kaukab Sharq, c'est l'étoile de l'Orient. Enfin, c'est un petit peu Édith Piaf.
Oui. Et elle a mis en voix et en musique, alors c'est pas elle qui écrivait les musiques, mais elle a chanté des poètes aussi.
Oui, elle a chanté des poètes très célèbres, par exemple les Rubaïyat, les quatrains de Khayyam, donc de l'iranien Khayyam. Elle a eu de très très grands musiciens. Hein. Et c'est vrai que bon, Oum Kalsoum, c'est un petit peu l'icône de tout le monde arabe. Et comme je disais tout à l'heure, elle a chanté aussi bien les grandes œuvres classiques, donc en arabe littéral, donc écrit, que des chansons, des chansonnettes, hein, on peut dire, en arabe dialectal égyptien. Voilà. En sachant que son point de départ, là aussi, c'est très important à dire pour la voix, c'est qu'elle elle vient d'une famille traditionnelle où il y avait des muezzins. D'accord, et au début, elle a commencé par la lecture, la psalmodie de textes coraniques, et que, ayant été remarquée par des musiciens, donc l'ouverture qui existait en Égypte lui a permis justement de devenir ce qu'elle est devenue, une grande chanteuse d'Orient. Voilà. Donc c'est important là aussi l'aspect culturel, je veux dire, il n'y a pas de séparation entre les croyances, la vie de tous les jours et puis les arts. Voilà, c'est un petit peu la définition que je disais tout à l'heure.
Et en parlant justement de culture et d'Égypte, j'avais entendu dire, enfin tu me diras si c'est vrai ou pas, qu'il y avait une forte connaissance aussi de l'arabe parlé en Égypte par le cinéma. Que le cinéma était très, très important, qu'il y avait beaucoup de films égyptiens qui étaient diffusés dans tout le monde arabe.
Oui. Alors, on peut le dire, particulièrement pour le cinéma, pour le théâtre aussi, pour le cinéma, parce que l'Égypte est un des pays précurseurs donc de production de films dans le monde arabe. Et c'est comme ça que l'Égyptien est très... est très familier, c'est une langue familière donc par la chanson et par le cinéma, effectivement, parce que tous les dialogues sont faits dans la langue de tous les jours, évidemment, avec différents types de films, aussi bien ceux de Youssef Chahine, donc le très célèbre réalisateur, que dans les films un petit peu à l'eau de rose avec des chansons, des danses, la danse du ventre, etc. Alors, mais j'en profite pour dire aussi qu'on le retrouve aussi dans la littérature. Et pour ne donner qu'un exemple, le seul prix Nobel de littérature arabe, donc Najib Mahfoud, donc grand romancier, eh bien dans tous ses romans, il écrit, donc la narration est écrite en arabe littéral, donc toutes les descriptions, et dès qu'il y a un dialogue, il est fait en arabe dialectal. Et ça, je pense que c'est très important. Pour résumer, disons que l'Égypte est un des pays qui n'a jamais eu de complexe vis-à-vis de la langue parlée, et c'est ce qui a fait que cette langue, elle a servi au cinéma, à la chanson, à la littérature, par rapport à d'autres pays qui ont vécu, enfin qui ont eu d'autres expériences, par exemple de colonisation française, et qui aujourd'hui hésitent ou se battent entre la forme écrite et la forme parlée, d'autant plus que le français régresse dans ces pays-là et que l'anglais avance plus, s'offre comme une autre alternative.
Et voilà. Oui, c'est vrai que les langues, c'est toujours un petit peu plus complexe qu'on ne le croit. Voilà, il y a souvent il peut y avoir des variantes, il peut y avoir plusieurs langues parlées dans un pays, et souvent on a un peu tendance à l'oublier en France.
Tout à fait.
Et il peut y avoir des langues parlées dans plein de pays différents, comme l'arabe ou le français ou l'anglais ou d'autres langues. On peut peut-être revenir un petit peu à l'ouvrage dont on a commencé à parler, les langues cultures, moteur de démocratie et de développement, donc coordonné par Martine Boudet. Il y a beaucoup de contributeurs, tu en es donc un d'entre eux. Est-ce que tu peux peut-être citer quelques autres contributions intéressantes à cet ouvrage, à ce livre ?
Oui, alors bon, sans donner de nom, hein, puisque j'invite à venir et à écouter donc dimanche et surtout à acheter le livre. Disons que quelques idées forces, hein, si vous voulez, je peux aborder quelques idées comme ça. Je n'aurais pas parlé que de ma contribution, mais disons que ce qui est défendu donc dans plusieurs articles donc de cet ouvrage, c'est un plurilinguisme. Voilà, donc par rapport justement à l'anglais ou qui est la langue officielle, hein, il faut le savoir, de 83 pays, donc sur les 5 continents, alors que le français, l'ère francophone, elle s'étend à 29 pays seulement. Donc, on a donc d'autres aires linguistiques, donc comme le chinois, comme l'arabe, donc qui sont en forte progression. Donc l'idéal, justement, ou ce qu'on défend, c'est d'avoir un plurilinguisme et que ces langues, alors mes collègues les appellent les langues mondes, comme l'anglais ou le français ou l'espagnol, puissent exister, coexister avec des langues qui sont moins répandues et que toujours dans cet esprit de diversité donc linguistique, mais aussi culturelle. Voilà, donc ensuite... Il y a la question, donc j'ai abordé la question de l'enseignement de l'arabe, mais j'en profite aussi pour, puisqu'il y a des articles qui parlent d'enseignement des langues régionales, donc quand il s'agit de France. Et là aussi, je me réjouis personnellement et les collègues avec moi, donc de la création de l'agrégation des langues de France, donc depuis 2018. Qui est vraiment une reconnaissance importante. Donc là, il y a déjà les options de breton, de corse et d'occitan, et à partir donc de la session 2019, donc du basque et du catalan. Voilà. Donc et là aussi, je pense que la défense des langues régionales, et c'est l'esprit du Forum des langues, ne peut se faire que par la défense de toutes les langues. Voilà, donc vraiment sans... qu'est-ce que je peux dire encore ?
Donc, toutes les langues sont égales entre elles.
Absolument, voilà. Et donc, il y a aussi, je pense à l'article de Claude Sicre, là je disais que je ne citerai pas de nom, mais je cite quand même, par rapport au Forum des langues, mais c'est parce qu'il est très très important, et lui-même donc parle des occitanistes, et cite Félix Carlan.
Castan.
Castan, merci. Oui. Les occitanistes ne peuvent défendre efficacement leur propre langue qu'en défendant toutes les langues du monde menacées ou déjà victimes de minorisation, d'occultation. Disparition. Je pense que vraiment c'est très très important et là aussi c'est le Forum des langues qui avait commandé à Henri Méchonic, donc on ne peut pas parler du Forum des langues sans le citer, donc pour le forum de 2001, la déclaration universelle des devoirs envers les langues et les cultures du monde, donc, et dont le texte figure dans le livre. Autre point fort qui me semble important, c'est la question de la francophonie aussi. Et là aussi, le collègue qui a écrit l'article sur la francophonie, ou la collègue, je ne me rappelle plus, défend donc l'idée d'une pluralité des francophonies. Il y a une universalité culturelle, donc qui existe grâce justement à la chanson, le théâtre, la poésie, le roman, donc, et plutôt que de parler d'une francophonie, donc on a une diversité selon les régions, selon les pays.
De décentraliser la
tout
francophonie un peu.
Tout ouais, à fait.
Il y a beaucoup de débats un peu sur ce thème en ce moment.
Voilà. En parlant aussi donc de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et qui milite pour que la francophonie ou les francophonies, donc cette diversité, servent de passerelle entre les peuples.
Voilà. D'accord.
Voilà. Et enfin, pour finir aussi, par rapport justement à l'aide au développement d'un certain nombre de pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, donc de lever cette... il y a une sorte de barrière linguistique. et que il faut absolument connaître les langues des gens qu'on veut aider dans la mesure où bon, le français, l'anglais, quand on va au fin fond d'un certain nombre de pays, en Afrique par exemple, ben, il faut vraiment connaître ces langues et c'est pour ça que leur valorisation, leur enseignement, leur... est très très important justement pour cette aide au développement.
Voilà, souvent le français ou l'anglais, peut-être dans une autre mesure, sont des langues de l'écrit, de l'école, mais ne sont pas forcément les langues utilisées au quotidien par les habitants et les habitantes. C'est sûr. On rappelle peut-être quelques informations sur dimanche, donc place des Tiercerettes, dans le quartier Arnaud-Bernard. C'est donc le 29 septembre de 15h.
À partir de 15h.
À partir de 15h pour le Café des Langues. Il y aura aussi des stands de diverses associations. Est-ce qu'on aura le plaisir de te voir proposer des calligraphies cette fois-ci?
Oui. Là, on l'a proposé il n'y a pas très longtemps et je le ferai avec grand plaisir. Donc ça sera dans la Journée européenne des langues. Donc on compte sur vous pour venir nombreux. Cet après-midi-là.
Il fera beau, normalement, tout ira bien. Et donc après, à 18h, il y aura la conversation socratique autour de l'ouvrage.
Voilà, avec quatre participants et évidemment avec l'échange avec le public.
D'accord, toujours le même principe de ces conversations socratiques, donc qui ont lieu plusieurs fois, notamment au mois de septembre. Est-ce qu'il y aura d'autres dates en octobre? Il ne me semble pas cette année.
Pas pour tout de suite, mais on réfléchit justement à
en proposer d'autres.
Oui, donc la mesure où ça intéresse, il y a eu pas mal de monde tout ce mois de septembre.
Le principe de ces conversations, c'est des conversations autour d'un thème avec un invité, mais surtout ce qui est important, c'est que ça se passe sur la place publique.
Et qu'il y ait des échanges, oui, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, donc ils n'étaient pas au courant.
Qui ne rentreraient peut-être jamais dans une salle, dans une librairie, mais qui...
C'est intéressant.
Ce principe. Donc c'est la démocratie, peut-elle se passer des langues cultures à 18h, place des Tiercerettes, en public, dans la rue, sur la place, plutôt plus exactement. Donc venez quand vous pouvez, si possible à 18h, ça sera peut-être plus judicieux pour écouter tous les intervenants. Merci beaucoup Saïd pour ta participation et
merci
pour nous avoir donné envie de venir dimanche. On a parlé de langues régionales minorisées, qui sont souvent très actives au niveau culturel, et un exemple avec maintenant le groupe du Bartas et la chanson Escuto me pla.
Escuto me pla, tu manage del latero. Escuto me pla, gaffe de mi bossa su. Escuto me pla, tu manage del latero. Escuto me pla, gaffe de mi bossa su. Causi di l'amour la curero, cusi parlerà slengo de mi boccolo. A tu de causi di l'amour la curero, cusi parlerà slengo de mi boccolo.
Uta futu tu messaggi, la sperdu tespla du magie, e scampandi cumbiage, beleu che tu repapia resrumpi.
Uta futu tu messaggi, la sperdu tespla du magie, e scampandi cumbiage, beleu che nu es pas futu.
Di de frontiero che pus guaranca lassù messo dell'amor.
Viaggi del paese calde stadi de frontiero che pus guaranca lassù messo dell'amor.
Ges de gat pelat calde munde calde sero che pus goccia pa mirgo de tutto curu.
Ges de gat pelat calde munde calde sero che scoccia pa mirgo de tutto coro.
Uta fu tutto un messaggio, la sperdite
espla du magie, escampando in cumbiage, peleu che tu repapiare srumpunt.
Uta scuti tu messaggi, las perdute espla du magie, escampando in cumbiage, peleu che tu espalsputu. De frontiero que busco arrancar a su mes del amor.